C'est le retour du LEM Sport sur Radio Évasion. Une fois par mois, c'est l'occasion de parler de sport d'une manière un peu différente et on retrouve Fred Sévaer pour cette nouvelle saison. Bonjour Fred.
Bonjour Pierre-Yves.
Alors notre invité pour la première émission de l'année, ce sera Ronan Pressard, cofondateur d'Apicyclette, une entreprise de réparation de vélos unique en son genre pour plein de raisons. On va le retrouver tout à l'heure, mais juste avant, on retrouve Hugo pour son résumé sportif de la semaine. Alors c'est un peu plus que la semaine, bon, faut dire aux auditeurs que Hugo est supporter lorientais, hein.
Et
qu'il a quelques raisons d'être content, contrairement aux supporters brestois. Donc je tire un peu la tête, tu vois, ça se voit là.
Bah, tu préviens quoi.
Les évadés du sport sur Radio Évasion. Hugo Lebeuze.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion. Je suis très heureux de vous retrouver pour les évadés du sport, votre flash autour de l'actualité sportive bretonne. Au sommaire de ce premier flash de la saison, un retour sur le démarrage flamboyant du FC Lorient et le départ beaucoup plus compliqué pour le Stade brestois en Ligue 1 de football, un point sur les bonnes performances récentes du RC Vannes en Pro D2 de rugby, et enfin, nous reviendrons sur l'entame de saison du Brest-Bretagne Handball. On débute cette nouvelle saison des évadés en évoquant les 8 premières performances des Merlus et des Tizèf en Ligue 1 de football. Les Lorientais réalisent la meilleure entame de championnat de l'histoire du club en totalisant 19 points et 6 victoires en 8 matchs, ce qui permet au partenaire d'Enzo Lefay d'occuper en cette fin septembre la troisième marche du podium. Et oui, vous ne rêvez pas, le nouvel entraîneur Régis Lebris, auparavant directeur du centre de formation et coach de l'équipe réserve, est en train de faire renaître de ses cendres la philosophie de jeu qui a fait la réputation du club, alors sous la houlette de Christian Gourcuff. Cette entame augure aux supporters Tango l'espoir d'un maintien acquis plus simplement et rapidement que lors des deux dernières saisons. Du côté du Finistère, l'ambiance est nettement plus houleuse et les hommes de Michel Derzakarian totalisent seulement un succès et 5 petits points après une série de rencontres sans s'imposer qui commence à s'éterniser. Le mercato estival était pourtant très prometteur sur le papier, avec notamment les arrivées des expérimentés Pierre Lesmelou et Islam Slimani pour renforcer drastiquement le secteur offensif. Les Brestois devront donc redresser la barre très rapidement, et ce dès ce dimanche 2 octobre, dans ce qui ressemble déjà, pardon, à un match pour la peur et pour le maintien sur la pelouse d'Auxerre, premier non relégable qui totalise 2 points d'avance sur Brendan Chardonnay et sa bande. Place au rugby, le RC Vannes réalise un excellent début de saison en Pro D2. Les Morbihanais ont connu le succès 3 fois sur 5 et occupent donc le podium de leur division. Le RCV s'est imposé pour la première fois à l'extérieur jeudi dernier sur le score de 30 à 27 face à Colomiers. Le tout en étant en infériorité numérique une bonne partie de la rencontre. Les joueurs de Jean-Noël Spitzer peuvent donc être satisfaits de cette entame de championnat conforme avec l'ambition du club de se mêler à la lutte pour les barrages d'accession au top 14. Ces premiers matchs contrastent également avec la saison passée, où les Vannetais avaient attendu, souvenez-vous, la 9e journée pour remporter une première victoire. Parlons désormais handball. Les filles du Brest-Bretagne Handball vivent un début de saison sous forme de montagne russe entre le championnat et la Coupe d'Europe. Les joueuses de Pablo Morel sont en effet toujours invaincues en Ligue féminine, où elles ont par exemple dernièrement battu assez sereinement Nice à l'extérieur, 32 à 29. Cela confirme leur statut de deuxième puissance du hand féminin français derrière Metz. Ce statut semble plus compliqué à assumer en Ligue des Champions, où pour le moment les Finistériennes ont subi 2 nets revers de rang face à Bucarest et Vipers. Elles doivent vite relever le tir pour exister sur le long terme parmi les grandes écuries européennes dans cette grande compétition qu'est la Ligue des Champions. Merci à tous d'avoir suivi ce retour du flash des évadés du sport. Avant de revenir justement tout à l'heure pour une toute nouvelle chronique, je vous laisse bien sûr en l'excellente compagnie de Pierre-Yves, Fred et leur invité. À tout à l'heure.
Et vous êtes toujours à l'écoute du LEM Sport sur Radio Évasion. On retrouve notre invité Ronan Pressard, cofondateur d'Apicyclette.
Et oui, mon cher Pierre-Yves, aujourd'hui, pour la première émission de la saison, nous allons parler vélo. En effet, nous recevons aujourd'hui Ronan, cofondateur d'Apicyclette, pour une happy émission.
Et comme le disait... Ah oui, il y avait marqué rire dans le
conducteur.
Je la rajouterai au montage.
C'est ça. Et comme le disait un certain Charles Trenet, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Re-rire.
Aujourd'hui sera question de réparation de vélo avec nos apis réparateurs qui viennent à la rencontre des habitants du territoire pour réparer les petits bobos de nos amis vélos.
Bonjour Ronan.
Bonjour Pierre-Yves, bonjour Frédéric.
Alors peut-être Ronan, tu peux nous dire déjà comment est née l'idée ou le concept, le nom à bicyclette.
Eh ben, tu as fait un lien assez sympathique puisqu'effectivement c'est de la musique de Charles Trenet que nous est venue l'idée à bicyclette et puis la mélodie assez sympathique que ça évoquait. Pour le reste, le logo et puis le marketing, ça a plutôt été la mission de nos compagnes qui nous ont aidés à peaufiner le tout. Globalement, l'idée, nous, elle est venue d'un constat qu'on faisait en magasin, puisqu'on a tous les deux, Maxime et moi, travaillé assez longtemps dans des enseignes de sport assez reconnues. On constatait souvent que le client avait des difficultés à amener le ou les vélos de la famille et puis à faire en sorte de repartir avec assez rapidement. Donc, pendant quelques années, on s'est dit c'est dommage parce que le client vient une première fois, amène le vélo, on doit établir un devis, puis revient une deuxième fois si on a de la place en atelier pour qu'on stocke son vélo, qu'on fasse la réparation, et une troisième fois pour venir le chercher. Si tout se passe bien, puisqu'il y avait parfois une quatrième fois quand les réglages, qui sont parfois subtils, demandaient à être peaufinés. Et donc, du coup, on est parti du constat, on s'est dit on va prendre le problème à l'envers. On va aller chez le client, de préférence, on va y aller une seule fois, en faisant en sorte que ces clients-là soient à une faible distance les uns des autres, en les regroupant sur des tournées géographiquement proches, pour diminuer notre impact sur l'environnement et puis faire en sorte d'avoir des journées les plus digestes et les plus efficaces possibles. Voilà d'où est venue la naissance de l'idée à bicyclette, réparer le vélo de nos clients directement à leur domicile ou sur leur lieu de travail, quand on a cette chance.
Ok, et concrètement, alors comment ça marche? Parce que tu dis que vous allez au domicile des gens, mais concrètement, j'ai mon vélo qui est en panne, je fais quoi? Je vous appelle?
Exactement Fred, ton vélo est en panne, tu t'en rencontres dans la journée. Tu as deux manières prépondérantes de nous contacter. La première, c'est le site internet www.api-cyclette.com. Et dans ce cas-là, tu vas avoir une proposition directement pour identifier le problème de ton vélo, nous fournir les petits renseignements qui nous permettent de savoir où tu habites, ton numéro de téléphone pour te contacter avant le rendez-vous, et tu vas pouvoir choisir un créneau de rendez-vous qui t'arrange dans les jours où on est disponible dans les jours qui viennent. Ou une deuxième solution, nous contacter directement au 06 31 16 37 89. Et dans ce cas-là, tu vas tomber soit sur moi le week-end, soit sur notre secrétaire Lucie la semaine. Et on va convenir avec toi d'un rendez-vous à la date et à l'heure qui t'arrange en fonction des tournées qu'on a de prévues.
Et du coup, au niveau des secteurs, est-ce que tu peux nous dire où vous intervenez? Dans quel rayon?
On a choisi le mot point BZH pour un sens bien particulier puisqu'on intervient sur toute la Bretagne. On n'a pas encore fait défaut à notre Bretagne, on n'est pas encore allé au-delà de nos limites habituelles, mais on va sur les quatre départements, bien sûr, et sur les îles, parfois on a cette chance-là, notamment les îles morbihanaises, de pouvoir en bateau aller réparer les quelques clients qui en font beaucoup sur les îles.
On parle beaucoup de réemploi, est-ce que c'est un mot qui résonne chez Apicyclette?
C'est une excellente question, c'est même, on va dire, notre leitmotiv. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec la région Bretagne pour, on appelle souvent recyclage à tort le travail qu'on peut avoir. Nous, on travaille plutôt sur un décyclage. Donc, on fait en sorte que 100% des déchets qu'on génère soient réutilisés. Donc, par exemple, pour te prendre un exemple tout simple et qui parle généralement très vite à nos clients, sur le caoutchouc, c'est le déchet numéro un avec les pneus et les chambres à air. Nous, on fait en sorte... pas simplement de les mettre à la déchetterie, mais plutôt de les conserver pour les broyer en petites billes de caoutchouc de 9 à 15 mm pour qu'elles soient réutilisées une fois qu'elles sont dévulcanisées, donc qu'il y a grosso modo plus de soufre, qu'elles nuisent plus à l'environnement, dans les manèges des centres d'équitation pour que ça soit mêlé avec le sable et que ça diminue les risques musculo-squelettiques des animaux. Et on fait ça à peu près pour tous les déchets qu'on génère.
Dis Fred.
Et du coup, concrètement, il y a cette valeur environnementale. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous défendez aussi à travers ce projet?
Oui, on a, je pense, trois grandes valeurs. La première, c'est la proximité. Parce que, bah, effectivement, avant de se dire on va réparer les vélos chez les clients, bah, on s'est dit bah, comment on peut faire en sorte que nos clients nous trouvent facilement. Et puis, on a aussi cette chance que le métier, pour moi et pour nous, n'est plus du tout le même que quand on était en magasin, puisqu'on a une approche, bah, on va chez le client. Donc, on entre en, entre guillemets dans sa zone de confort et on devient, au-delà du réparateur du vélo, on devient le conseil pour bah, les textiles, pour les accessoires, pour le conditionnement du vélo à l'intérieur du garage. Donc, la première, ça serait la proximité. La deuxième, effectivement, ça serait la recherche et le développement sur le, les déchets. Donc, le traitement de nos déchets, c'était vraiment une valeur fondamentale pour nous. Et le rapport qualité-prix, c'est notre troisième valeur, puisqu'on a décidé de faire un tarif similaire à Decathlon et Intersport, nos deux grands concurrents dans le secteur. C'est pas parce qu'on se déplace qu'on est plus cher. On a fait un devis qui est gratuit. On se déplace chez vous, ben, vous avez la certitude que le devis sera fait dans tous les cas, puisqu'il est gratuit. Vous acceptez ben, ce que vous souhaitez à l'intérieur selon ce qui vous semble cohérent. On transigera juste pas sur les choses de sécurité, notamment le freinage. Ça veut dire que dès qu'on prend un vélo et qu'on accepte de faire une réparation, on s'assure que dans tous les cas, ben, le freinage soit bon à l'entrée, mais surtout à la sortie de notre réparation. Et donc, bah, on a institué alors depuis peu des frais de déplacement, puisqu'avec l'augmentation du frais de carburant, voilà, on a des frais de déplacement, mais ça, c'est communiqué dès la prise de rendez-vous, et c'est diminué quand les rendez-vous se rapprochent et que les journées sont très efficaces.
Oui, puis c'est des frais que les gens auraient eu de leur côté s'ils avaient dû se déplacer, donc finalement, voilà, ils s'y retrouvent quand même. Il me semble qu'il y a également une possibilité d'avoir une aide aussi. Il y a des primes à des moments pour réparer son vélo, ça existe ou pas ?
Alors, très bon sujet, puisque ça a existé jusqu'au 31 mai 2021, ça s'appelait coup de pouce. C'était une aide de 50 euros dans la limite de 10 vélos par personne, sur une réparation que, bien sûr, on faisait puisqu'on était accrédité sur la région Bretagne. Et il y a, dans les actualités qui vont arriver, il y a un fonds d'investissement qui est en train d'être débattu, notamment au niveau national, pour que, en fait, bah, les fabricants de vélos viennent, lors du prix de vente du vélo, mettre une tirelire en quelque sorte, pour que le vélo puisse être réparé tout au long de sa vie. Mais là, je vais pas griller les actualités. C'est quelque chose qui devrait sortir dans les semaines qui viennent.
Ouais, le vélo a depuis quelques années un petit retour en force, hein, pour plein de raisons. La pandémie, la prise en compte aussi, la conscience d'un environnement qui bouge. Vous le sentez, vous, au niveau des clients qui font appel à vous? C'est un mouvement de fond qui se répercute aussi sur votre activité?
Eh ben, complètement, puisque en fait, j'en parlais justement avec un de nos clients ce matin. On a fait jusqu'alors, et je touche du bois, très peu de prospection. Et on sent vraiment qu'en fait, bah, la démarche, que ce soit des institutions ou des médias, qui vient à notre rencontre est grandissante. Notamment, bah, on a foule de communes ou d'entreprises qui viennent de solliciter pour réparer les vélos de leurs salariés quand c'est des entreprises, ou les vélos de leurs usagers quand c'est des mairies ou quand c'est des agglomérations. Donc effectivement, ça on le voit, on participe aussi avec certaines communes quand on en est proche au plan d'établissement des déplacements urbains. Donc ça nous permet, au-delà de notre métier, de participer à vraiment une nouvelle dimension transverse de l'utilisation du vélo dans les campagnes et dans les villes.
Merci Ronan, on va faire une petite pause, bah justement on va continuer un petit peu à parler d'environnement, on va parler un petit peu aussi toujours de sport, avec une nouveauté dans Solem Sport, c'est la météo d'Hugo. Alors sport et environnement, une thématique qui a le vent en poupe, hein, justement, on en parlait il y a quelques instants. Alors sans mauvais jeu de mots, hein, parce que j'arrête mon char, tu vois le lien entre vent, char, tout ça, tu vois à quoi je fais référence?
Oui, et je pense que du coup les gens vont se rendre compte que la rédac a beaucoup bossé pour préparer cette nouvelle saison.
Mais oui. Et Hugo, il avait envie de nous parler de la Coupe du Monde au Qatar et de l'équipe de France, plus largement.
Et oui Pierre-Yves, pour cette première météo d'Hugo de la saison, j'ai décidé d'évoquer les secousses actuelles du monde du ballon rond. Voilà donc l'automne arrivé, et avec elle probablement la fraîcheur et les nuits qui tombent de plus en plus tôt. Ces nuits seront dans un peu moins de 2 mois animées par une Coupe du Monde de football. Ah le mondial, un éclair dans le noir, un moment de joie qui nous rassemble, à peu de choses près. La 22e Coupe du Monde de la FIFA ne ressemblera probablement à aucune autre. Cette reine des compétitions sportives, organisée à cheval entre automne et hiver, dans des stades climatisés à ciel ouvert, à l'intérieur d'un pays qui bafoue les droits de l'homme à longueur d'année, semble paranormale. Alors, nous pourrions nous raccrocher inconsciemment, par volonté de trouver une forme de légèreté à ce monde de brut, à ce qui fait le sel de notre passion. Le plaisir de partager des émotions sportives. C'est bien sûr le bonheur de voir accélérer Kylian Mbappé, le sourire que nous procure le courage de N'Golo Kanté. Seulement voilà, il semble bien que ce qui entoure cette équipe soit aussi difficile à regarder dans une glace à l'heure où j'écris ces lignes. Ce n'est sans surprise véritable que nous avons découvert par différentes voies de presse le capharnaüm qui règne à la Fédération Française de Football, sans oublier le déchirement de la famille Pogba. Alors, cela amène sans doute la question suivante. Mais où est donc passée la légèreté tant recherchée que l'on souhaite obtenir via ce sport magnifique? Chacun prendra les choses par le bout qu'il souhaite. Dans quelques semaines, Karim Benzema sera sans doute le 5e ballon d'or français de l'histoire. Ses performances stratosphériques nous porteront peut-être collectivement vers un 3e moment dans l'histoire où l'on pourra dire à quel pied, et vous connaissez la suite. Mais à coup sûr, nous aurons tous le cœur moins léger et insouciant quand cette fin d'après-midi pluvieuse moscovite de juillet 2018 est quelque part, c'est avant tout bien malheureux.
Et ouais, des états d'âme pour Hugo pour cette première météo, mais vous inquiétez pas, il y aura plein de trucs aussi positifs qui se passeront dans l'année. Hein. Voilà, c'était un petit peu la météo sportive d'Hugo.
Tout à fait, et moi je voulais revenir avec notre invité sur la question qu'on évoquait juste avant la petite pause avec Hugo, sur la question des collaborations aussi avec des professionnels, des collectivités, on parlait aussi de l'actualité, moi je sais que le ministère de l'écologie lance aussi des fonds qui vont être portés sur 7 ans à venir, et est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez vous inscrire là-dedans, et est-ce que vous faites des appels, ou est-ce que vous avez déjà des projets de votre côté que vous souhaitez présenter?
Alors, pour tout te dire, on est quand même une petite entreprise, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a atteint sur le pic de la saison une dizaine de collaborateurs. Après, on est quand même très jeune, donc on a des projets. Alors, les projets pour nous se situent plutôt en amont avec le traitement des déchets, avec le développement des compétences et avec les écoles avec qui on collabore et avec qui on va donner des conseils en termes de réparation. On n'est pas honnêtement dans une démarche avec l'État ou même avec la région de pouvoir se permettre de donner un avis plus important. On est vraiment, on va dire, à échelle locale, à petite échelle, une petite entreprise, d'où la proximité dans les valeurs. Et donc, on n'a pas encore lancé de choses plus importantes à ce niveau-là.
Là, actuellement, vous êtes à combien de collaborateurs à Apicyclette?
Alors, les saisonniers qui étaient deux étudiants nous ayant quittés, on est revenu à un nombre de collaborateurs à 5 et donc à 4 camions, donc un camion par département et un collaborateur par département.
Et ça suit du coup au niveau formation aussi, parce que le vélo, ça devient ça va peut-être devenir cet hiver ça va encore peut-être monter encore d'un cran, peut-être que si au niveau énergétique ça devient compliqué, il faudra peut-être pédaler pour aller au boulot. Vous trouvez les réparateurs?
Alors effectivement, j'espère que l'hiver se passera bien quand même, Pierre, qu'on n'aura pas tous besoin de pédaler. Mais au-delà de ça, effectivement, nous on a quand même eu la chance avec Maxime de pouvoir rencontrer des collaborateurs qui n'étaient pas forcément du monde de vélo. J'entends par là que en fait les candidatures qu'on a eues sont des personnes qui voulaient donner un nouveau sens à leur vie, une nouvelle vocation. Et donc, nous, on a formé en interne l'intégralité de nos collaborateurs, donc qui étaient des gens qui étaient cuistots, qui étaient des diplômés en économie, qui étaient réparateurs voitures, mécano-voitures. Et donc, grâce à Maxime, qui a son CQP, donc, qui a passé des qualifications particulières, on les a pris pendant une durée de 3 mois en collaboration avec le Pôle emploi du département adapté pour les faire monter en compétences, les faire découvrir notre environnement et aussi, je dirais, leur faire découvrir notre manière de voir les choses et donc leur confier au bout des 3 mois, si le niveau leur permettait et si l'expérience les convertissait, devenir des happy réparateurs dans leur propre camion et dans leur propre département.
Oui, du coup, vous avez tous des profils très différents. Je crois, Pierre-Yves, tu me parlais, toi, avant l'émission, que notre invité avait des talents cachés ou en tout cas un parcours aussi sportif. On voulait vérifier ça. Alors, je te laisse, Pierre-Yves, peut-être.
Mais oui, parce que tu as pratiqué le rugby à haut niveau, c'est ça?
Exactement. Tout à l'heure, j'entendais la petite rubrique sur le RCV. J'ai eu la chance d'être formé dans des écoles bretonnes, notamment par Jean-Noël Spitzer, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Vannes en équipe de Bretagne. Et puis, j'ai été joué au Royaume-Uni en en Angleterre notamment, donc à Newcastle en première division anglaise.
Oui, quand même. Et du coup, cette expérience là, ça t'a, parce que t'es passionné de vélo aussi peut-être, ou t'as pas voulu ouvrir un magasin de sport classique, voilà, c'était le vélo aussi parce que ça te plaisait.
Alors pour tout te dire, c'est surtout une somme de rencontres. J'ai eu la chance de monter un premier magasin à Redon, un magasin Intersport pour une enseigne concurrente. Et au travers de ça, bah, ça a été une expérience entrepreneuriale hyper enrichissante. Mais grâce aux collaborateurs qui m'ont suivi sur cette activité-là, notamment Maxime, qui est mon associé aujourd'hui, on a choisi une filière puisqu'on utilisait le vélo pour se déplacer pour le travail et aussi pour nos divertissements. Et donc, on a fait de notre loisir une source de travail.
Alors, on va rebondir sur plein de thématiques en même temps, parce que là, on a un petit peu évoqué ton parcours de sportif de haut niveau. Hugo, juste avant, avait fait un peu le lien environnement et compétition sportive. Moi, je voulais te demander, en profiter, quoi, du coup, de ta présence. Finalement, sport de haut niveau et question environnementale, c'est deux choses antinomiques.
Alors, une petite dizaine d'années en arrière peut-être, je pense qu'aujourd'hui, le côté entreprise m'a permis, par exemple avec à bicyclette, on a couvert les championnats de Grand Ouest jeunes qui avaient lieu à Grandchamp sur le monde du vélo, et ça nous a permis de voir que justement l'environnement devenait une préoccupation fondamentale des événements à titre régionaux, nationaux, voire même internationaux. Et je pense qu'effectivement, on se le dit de plus en plus et on le fait de plus en plus. On a cette conscience de mobiliser et des acteurs qui sont sensibles à l'environnement et des mises en pratique pendant les événements qui ont une conscience environnementale importante.
Oui, et alors tu parlais de compétition là, par exemple. Alors si je reviens à des choses beaucoup plus concrètes, sur le profil des clients, est-ce que vous avez aussi des gens, par exemple, parce que je me dis, moi je suis cycliste et je me dis, moi j'ai un joli vélo, mais le jour où il est en panne, par exemple, est-ce que vous intervenez aussi sur des très beaux vélos de compétition ou auprès de cyclistes, chevronnés?
Alors on le fait parce qu'on a des contacts, notamment dans notre sphère, on a Dorian Godon qui est un coureur professionnel de AG2R Citroën avec qui on a beaucoup collaboré parce que c'est un ami, une très bonne connaissance. Mais globalement, on s'aperçoit que le pratiquant de haute compétition, que ce soit en VTT, en cyclocross, en véloroute, à la plupart du temps, son vélociste et fonctionne quand même plus facilement par son vélociste et aussi a une très bonne notion des pièces qu'il doit déjà utiliser sur son vélo, donc va quand même pas mal faire de la mécanique lui-même. Donc je dirais que notre cœur de cible à nous, c'est plutôt le père ou la mère de famille entre 35 et 55 ans qui va pas vouloir déplacer tous les vélos de la famille. On n'a pas encore mis le pied dans l'élite du vélo, puisque la plupart du temps, il y a aussi une histoire de garantie. Et la plupart du temps, c'est vrai, quand vous achetez un vélo qui a un certain coût chez un vélociste, la plupart du temps, le vélociste préfère voir le vélo par la suite pour faire fonctionner les garanties. Et parfois, éviter des main-d'œuvre conséquentes.
Mais plus largement, est-ce que vous participez à des actions de formation ou d'accompagnement pour aider les gens sur le long terme à être plus ou moins autonomes aussi? Ça fait partie un peu de l'idée d'Apicyclette ou pas?
Eh ben, tu fais bien de développer ce point-là parce qu'en fait, je pense que c'est indirectement ce que l'activité Apicyclette a donné. On s'attendait à aller réparer des vélos chez les clients sans forcément que le client reste avec nous. Et je pense que peut-être par notre formation, mais surtout par notre déplacement chez eux, on a de plus en plus et de parents, voire même d'enfants, et puis parfois les grands-parents quand c'est chez eux, qui restent jeter un coup d'œil, découvrir comment régler un étrier de frein, découvrir comment régler des passages de vitesse. Et plus récemment, on a eu la chance, et je dis vraiment la chance parce que on a des écoles qui nous ont contactés pour faire des ateliers auprès des classes qui sont les CE1, CM1, CE2, CM2. Alors, il faut quand même que les enfants aient un certain âge pour bien assimiler un changement de chambre à air ou un changement de patin. Mais on s'est pris au jeu et on a eu des super découvertes parce que ça donne aussi une nouvelle facette à notre métier. Donc oui, on essaye à notre échelle, à notre petite échelle, d'œuvrer avec les écoles et surtout quand on est chez les particuliers, de sensibiliser l'usager du vélo à comment moins fatiguer son vélo, donc comment moins nous voir, entre guillemets, et surtout comment faire en sorte de pouvoir pallier aux petites réparations lui-même.
Ouais, et je me disais aussi, c'est une question de sécurité, parce qu'on parlait de tout à l'heure de sécurité. C'est vrai qu'un vélo qui fonctionne bien, c'est éviter des chutes. C'est aussi une question de sécurité routière, voilà. Et est-ce que aujourd'hui vous êtes confronté à cette difficulté de voir aussi la circulation sur les routes entre vélo et voiture? Est-ce que c'est une question qui, selon vous, est importante ou qui sera à traiter dans les années à venir?
Alors c'est même une question prépondérante. Alors je pense que je prends pas les devants, mais je pense qu'effectivement il y a une vraie structuration de la circulation en France et en Bretagne à faire, même si on n'est pas les plus à plaindre. Moi je sais que j'ai eu la chance de vivre quelques années en Belgique et de voir justement le système belge et le système néerlandais où les voitures et les vélos cohabitent plus facilement parce que tout a été créé dans cette optique-là. Nous c'est vrai qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour ça, plus que les entreprises qui fonctionnent dans le vélo ou plus que les particuliers qui fonctionnent dans le vélo, il faut que les collectivités s'y mettent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a la chance. Je prends l'exemple, par exemple, du Val d'Aubigné, qui est une commune au nord de Rennes avec qui on collabore beaucoup, qui nous sollicite justement quand ils vont faire un plan de développement hors agglomération et qui vont nous demander, est-ce que ça, vous pensez que c'est judicieux? Est-ce que la fin de cette piste cyclable, ça vous semble cohérent? Et je trouve qu'on a de plus en plus d'échanges indirects qui permettent de faire développer la pratique du vélo. Alors ça mettra quelques temps, à porter ses fruits, mais on œuvre à notre échelle.
Merci beaucoup Ronan pour cet entretien, là c'était super chouette, on a appris plein de choses sur la bicyclette.
Il y aurait plein de choses à dire encore.
Il y aurait plein de choses encore à dire, mais le temps nous est compté, malheureusement. On aurait pu continuer, mais on refera une autre interview, à l'occasion, quand vous passerez dans le 29.
Avec plaisir Pierre-Yves et Frédéric.
Et peut-être on peut rappeler pour les auditeurs, si jamais quelqu'un a un vélo dans son garage qui traîne en ce moment, ou je ne sais, bon, on peut faire aussi du vélo juste pour le plaisir, comme ça, pour le fun. Hein.
Ouais, pas que pour aller au boulot, aussi pour se balader le week-end. Ouais.
Exactement, voilà, si quelqu'un a envie de faire réparer son vélo, il fait comment?
Très simple, le premier contact c'est www.api-6cyclette.bzh et le deuxième c'est tout simplement le 06 31 16 37 89. Et ils retrouveront Lucie au secrétariat ou moi-même.
Bon, super. Vous recevrez un mail en fin de journée.
Parfait. Merci beaucoup, Yannick.
Merci, Ronan. Bonne journée à toi.
Merci, Fred. Merci, Pierre-Yves.